Et on vous retrouve maintenant, Michael Ponge, pour le journal d'Haïti et des Amériques.
Bonjour Louis, merci. Il est 6h10 à Los Angeles. Le sommet des Amériques de Joe Biden, troublé avant même d'avoir commencé ce lundi, un rendez-vous qui pourrait bien se transformer en humiliation pour le président des États-Unis, quand le premier ministre haïtien Ariel Henry aimerait y voir, lui, une opportunité. C'est notre dossier du jour. La guerre à des milliers de kilomètres de chez soi, rencontre avec des Sud-Américains qui ont choisi d'aller défendre l'Ukraine. Et puis, le journal de la première Tessa Gromane, ce sera avec vous. On évoquera le cas de ces pêcheurs antillais qui ont obtenu une baisse des prix du carburant.
Oui, moins 20 centimes le litre, une baisse obtenue après le blocage du port de Pointe-à-Pitre et 6 heures de négociation.
On en parle dans une quinzaine de minutes, Tessa. Bienvenue à tous.
RFI, las voces del mundo.
Une semaine d'échanges censée inaugurer une nouvelle ère dans les relations des États-Unis avec l'Amérique latine. Ça, c'est pour l'ambition de façade. La réalité, elle, est bien différente. Le sommet des Amériques qui débute donc ce lundi à Los Angeles est devenu un véritable casse-tête diplomatique pour Washington. Bonjour Harim Leipold.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Coopération économique, environnement, immigration, on aurait dû parler de ça et rien que de ça à Los Angeles. Mais en fait, on va parler surtout des absents. Plusieurs chefs d'État latino-américains ont décidé de boycotter. Expliquez-nous pourquoi, Harim.
Alors effectivement, pardon, pourquoi ce boycott? Eh bien, les États-Unis ont décidé de ne pas inviter Cuba, ni le Venezuela, ni le Nicaragua, parce qu'ils considèrent que ces trois pays ne sont pas démocratiques. Une décision vivement critiquée par plusieurs gouvernements de gauche de la région, à commencer par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui par solidarité a décidé de boycotter l'événement.
Si se invita a todos los países, yo voy a asistir a la cumbre.
Je viendrai seulement si tous les autres pays sont invités, a-t-il déclaré la semaine dernière. Outre le Mexique, la Bolivie, encore le Honduras, ont choisi de bouder l'invitation américaine. Ils enverront seulement des délégations ministérielles.
Et ça arrive à l'administration Biden, ce sentiment et cet élan de solidarité, eh bien, il ne l'avait pas vu venir.
Oui, absolument. Pour essayer d'apaiser les tensions, le président Biden a même fait un petit pas, un petit geste envers La Havane et Caracas. Il a levé certaines sanctions contre Cuba et a renouvelé la licence d'exploitation de l'entreprise Chevron au Venezuela, mais la situation politique intérieure aux États-Unis empêche Joe Biden d'aller plus loin. C'est ce que nous explique le spécialiste de l'Amérique latine, Gaspar Estrada.
La politique étrangère des États-Unis vis-à-vis de l'Amérique latine est essentiellement pensée à des fins de politique intérieure américaine, notamment dans les swing states où la population hispanique est importante, compte et pèse électoralement, je pense notamment à la Floride, et c'est ce qui a contribué à ce que les États-Unis et Biden ne prennent pas d'initiative, que ce soit en ce qui concerne Cuba, le Venezuela, depuis son investiture en janvier 2021, et c'est ce qui provoque aussi le caractère très limité des annonces faites par l'administration démocrate quelques semaines avant la tenue de ce sommet.
Et effectivement, les républicains mettent en garde le président à l'instar du sénateur Marco Rubio.
Honnêtement, je ne pense pas que les États-Unis devraient céder aux pressions quand il s'agit d'inviter ou pas une personne à un sommet que nous-mêmes nous organisons. Si le président mexicain ne veut pas venir, eh bien il ne viendra pas. Nous organisons un sommet auquel les dictateurs ne sont pas conviés. Et ceux qui boycottent le sommet parce qu'ils souhaitent la venue de ces dictateurs, eh bien ils nous permettent de savoir qui sont nos amis dans la région.
Une vision finalement très binaire en Harim qui fait que les États-Unis ont du mal à s'adapter aux nouvelles réalités régionales.
Oui, car la défense de la démocratie, vous savez, ce concept qui reste au cœur de la politique latino-américaine de Washington, eh bien, ce concept est de plus en plus contesté, comme on peut le voir avec ce sommet des Amériques, avec comme résultat une vraie perte d'influence des États-Unis dans la région, selon Gaspar Estrada.
Aujourd'hui, on peut dire que voilà, l'époque où l'Amérique latine était la chasse gardée des États-Unis, eh bien, cette époque-là est désormais révolue. Il s'agit plutôt d'un espace d'affrontement, d'une rivalité stratégique, je dirais, entre les États-Unis et la Chine. Et je pense que ce sommet est plutôt la traduction de cette nouvelle réalité.
Donc terminé en Harim, le temps où tout le monde se pliait aux exigences de Washington.
Exactement, on témoigne la réaction du président brésilien Jair Bolsonaro qui, au départ, voulait lui aussi bouder le sommet, mais a accepté finalement de venir après avoir posé, comme il dit, certaines conditions.
Je serai au sommet des Amériques. J'avais discuté avec l'envoyé spécial du président Biden. Je voulais savoir quel serait le traitement réservé au chef d'État du Brésil, l'un des pays les plus importants du monde. Car je n'irai pas pour figurer uniquement sur la photo officielle. J'ai donc demandé, est-ce que j'aurai une rencontre bilatérale d'au moins 30 minutes avec Joe Biden ? Bon, vous savez, j'ai eu 3 heures avec Vladimir Poutine. La réponse était oui, donc on y sera.
La réponse était oui, donc iremos.
Alors, selon certains observateurs, Michael, ce sommet des Amériques qui débute donc aujourd'hui serait déjà un sommet des alliés des États-Unis. D'ailleurs, à quelques heures du début de la rencontre, Washington n'a pas toujours publié la liste des invités. Mais une chose est sûre, au lieu de renforcer la coopération régionale, le sommet confirme ses difficultés, ce qui fait le jeu, bien sûr, de la Chine. On vient d'entendre un officiel de Pékin, d'ailleurs, s'interroge de manière faussement naïve. Je croyais pourtant que Cuba et le Venezuela faisaient eux aussi partie des Amériques.
Voilà, l'ironie chinoise, alors que ce sommet a justement pour ambition de contrer l'influence chinoise en Amérique latine. Alors on le disait, hein, parmi les enjeux, il y a la question centrale de l'immigration qui concerne tous les pays. Symboliquement, une caravane de quelques 11 000 migrants vénézuéliens va s'élancer ce lundi du sud du Mexique avec l'objectif de rejoindre la frontière des États-Unis. Des migrants qui estiment que les demandes administratives imposées par le Mexique visent à entraver avant toute chose leur périple, comme l'explique le père Conrado Zepeda, directeur du Jesuit Refugee Service.
Il y a depuis quelques mois déjà une politique pour faire de Tapachula une ville-prison où les gens ne peuvent pas continuer leur chemin ou bien pour rendre aussi difficile que possible leur route en direction du nord. Et cette politique s'étend également plus loin à travers les États du Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca. Là, il y a un certain nombre de points de contrôle de la garde nationale et de l'immigration qui détiennent ceux qui traversent ces régions. Il y a un long délai pour ceux qui font une demande d'asile en raison de la demande importante des personnes qui effectuent ce processus en ville. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire une demande d'asile, il devient quasiment impossible d'aller vers le nord. Seulement quelques visas humanitaires sont donnés, mais il ne s'agit alors de régulariser les situations que pour un an. C'est une chose positive, mais il n'y a pas plus de possibilités pour les migrants qui n'ont pas de dossier d'asile au Mexique.
Des propos recueillis par Enrique Pérez. Je vous propose maintenant de nous arrêter sur l'un de ceux qui sera bien présent à Los Angeles à ce sommet des Amériques. C'est le Premier ministre haïtien Ariel Henry. Amélie Baron, correspondante de RFI à Port-au-Prince. Cette réunion internationale constitue pour le chef du gouvernement une véritable opportunité.
Ariel Henry est parti dès vendredi d'Haïti pour prendre part à ce rendez-vous diplomatique qui arrange bien ses affaires. Début mai, les États-Unis avaient donné le ton en annonçant qu'ils n'invitaient pas l'ensemble des dirigeants du continent. Cuba, le Venezuela ou le Nicaragua en sont exclus et qu'Haïti soit convié n'était pas une évidence compte tenu de la crise politique. Car il faut rappeler que si Ariel Henry dirige de fait le pays depuis juillet, il n'a pas été installé comme le veut la Constitution. Le président Jovenel Moïse l'a nommé à ce poste 2 jours seulement avant de se faire assassiner. Il n'y a jamais eu de cérémonie de passation de pouvoir entre lui et son prédécesseur Claude Joseph. Celui-ci était d'ailleurs resté à la gestion des affaires dans les jours qui ont suivi l'attentat contre le chef d'État. Et ça n'est qu'après un tweet du groupe des Nations Unies et ambassade étrangère qu'Ariel Henry a pris fonction. Cette invitation au sommet des Amériques le conforte sur la scène internationale dans sa qualité de chef du gouvernement, alors qu'il est toujours contesté à l'intérieur du pays.
Et sa participation n'était pas garantie, hein, d'autant Amélie qu'Ariel Henry a, selon ses détracteurs, un bilan qui n'est pas très positif à présenter.
Des enlèvements commis au quotidien à Port-au-Prince, les gangs qui contrôlent en toute impunité les entrées terrestres de la capitale, une pauvreté et une insécurité alimentaire qui s'aggravent, une économie qui plonge et ce consensus politique qu'il n'arrive pas encore, 10 mois après son arrivée à la tête du gouvernement, à obtenir avec ses opposants. L'ardoise que va présenter Ariel Henry à Los Angeles est pour le moins négative. Le Premier ministre n'a pas non plus de calendrier à proposer à ses homologues. Il dirige de fait un régime de transition qui n'a garanti aucune échéance démocratique et pour cause. Face à l'insécurité qui ravage le pays, aucun dirigeant politique ne peut honnêtement s'avancer à fournir les dates d'éventuels scrutins, pourtant indispensables pour remettre sur pied les institutions.
La lutte contre cette insécurité qui constitue, Amélie, une raison de la participation d'Ariel Henry à ce sommet des Amériques.
C'est ce qu'il a mis en avant dans son discours qu'il a donné vendredi juste avant de prendre l'avion. Le Premier ministre a dit qu'il parlerait vrai. Notre priorité est la lutte contre l'insécurité et la violence animée par les gangs, les kidnappings et la corruption, a encore une fois affirmé Ariel Henry, pour qui le sommet des Amériques est une opportunité pour discuter avec les partenaires de la région pour, je cite, « avoir les voies et moyens afin d'équiper les forces de police pour faire face aux gangs ». Des partenaires qui, eux aussi, arrivent avec ce besoin d'évoquer la situation d'Haïti, avant tout car eux voient arriver sur leurs côtes les migrants haïtiens. Par centaines. C'est un exode périlleux, plusieurs bateaux ont fait naufrage, mais cette importante quantité de candidats à l'exil par la mer prouve que ce risque de voyage est perçu comme moins grand que celui de rester vivre sous la menace des gangs.
Amélie Baron, correspondante de RFI à Port-au-Prince, donc pour refermer cette longue page consacrée à ce sommet des Amériques qui débute ce lundi à Los Angeles. Se battre pour un pays qui n'est pas le sien, seulement au nom de la liberté. Une fois n'est pas coutume, arrêtons-nous en Ukraine, où notre envoyé spécial dans le Donbass, à l'est du pays, Sébastien Nemeth, a rencontré des soldats sud-américains incorporés au bataillon Karpaskasych, venus se battre contre les Russes aux côtés des forces ukrainiennes.
Ils sont une vingtaine de Brésiliens, Colombiens ou encore Argentins intégrés au bataillon et installés côte à côte dans le dortoir. Parmi eux, un péruvien de 30 ans, ancien militaire, choqué par l'offensive russe. Il est arrivé en Ukraine il y a 3 mois.
J'ai vu ce qu'il faisait, j'ai vu des images d'enfants morts, mutilés. Alors je me suis dit que je pouvais aider car je suis spécialisé en équipement lourd, notamment les missiles. Je sais opérer de l'artillerie lourde. Je peux aussi aider à la reconstruction ou à évacuer des débris. Chez moi, personne ne savait que j'allais venir. En partant, j'ai dit à ma mère que je me rendais dans le sud du Pérou. Mais une fois à Amsterdam, j'ai dit la vérité.
José Dario charge son arme avant de repartir au front. Cet ancien soldat colombien, originaire de Medellín, est là depuis 1 mois et c'est un choc total par rapport à son ancienne vie.
J'ai vendu toutes mes affaires et traversé 5 pays. Mais cette guerre est incomparable avec celle en Colombie. Il y a des jours où on ne peut même pas sortir. Parfois, nous marchons et les bombes tombent à côté de nous. C'est un conflit beaucoup plus moderne. On sent beaucoup plus l'adrénaline, la nervosité et oui, nous avons peur. Mes proches pensent que nous sommes fous. Ils demandent ce que je fais ici, disent que ce n'est pas mon pays, pas ma guerre. Mais toute personne croyant en l'humanité peut se rendre compte que s'engager est justifié.
Grâce à un combattant ukrainien parlant espagnol, ses volontaires sont parvenus à s'intégrer au groupe, mais le bataillon recherche toujours davantage de traducteurs pour s'occuper des étrangers. Sébastien Nemeth, Adel Khoury, Barvinkov et RFI.
16h23 en Ukraine. On retourne à présent du côté du continent américain, toujours avec vous, Arim Lipold, dont on le disait tout à l'heure, hein, le Venezuela donc n'est pas convié au sommet des Amériques, mais le dialogue entre Caracas et Washington n'est pas pour autant rompu.
Oui, c'est à la une du journal vénézuélien Ultimas Noticias. Selon le président Nicolas Maduro, cité par le quotidien, le gouvernement maintient le contact avec la délégation américaine qui s'était rendue au Venezuela en mars dernier. Les discussions sont parfois lentes, parfois moins lentes, d'après Maduro, qui évoque certains progrès, des progrès notamment dans le domaine pétrolier, car après la compagnie américaine Chevron, les États-Unis ont aussi autorisé 2 entreprises européennes, Repsol et Eni, à reprendre les exportations du brut vénézuélien. Selon le journal pro-chaviste El Periodiquito, le gouvernement vénézuélien réclame toujours la levée de toutes les sanctions américaines qui pèsent sur le pays.
On va pas mal en parler dans les jours qui viennent. Cette semaine, aux États-Unis se tiennent à Rim les premières auditions publiques devant la commission parlementaire, celle chargée de faire la lumière sur l'assaut du Capitole à Washington le 6 janvier 2021.
Oui, ça sera sans doute l'événement de la semaine et beaucoup de journaux en parlent déjà. Alors que les auditions ne commenceront que jeudi, après avoir accumulé des montagnes de preuves depuis l'été dernier et fait défiler des centaines de témoins derrière des portes closes, eh bien, la commission parlementaire américaine entre cette semaine dans une de ses dernières phases, écrit le journal Le Devoir. Il y aura 6 auditions au total, dont 2 seront diffusées en direct à l'heure de grande écoute. Alors quel est l'enjeu? Eh bien, selon le journal, elle pourrait bousculer les perceptions du public sur le rôle réel joué par l'ex-président Donald Trump, accusé d'avoir inciter ses partisans à cet assaut mortel sur le Capitole, mortel. Et oui, leur devoir rappelle que 7 personnes y ont perdu la vie.
Est-ce qu'il est possible, Arim, que de nouvelles preuves surgissent au cours de ces auditions publiques?
Alors, selon un spécialiste consulté par le Devoir, oui, c'est tout à fait possible que ces auditions fassent apparaître de nouvelles preuves plus incriminantes et qu'éclairent davantage la conspiration élaborée par des responsables du gouvernement Trump pour empêcher la certification des résultats du vote de la présidentielle de 2020. Mais d'après un autre expert, de nouvelles révélations sur les crimes commis par Donald Trump durant sa présidence risque aussi d'être perçue par sa base comme des preuves de plus d'un acharnement sans fondement, selon eux. Donc cela ne pourrait que renforcer finalement la mobilisation électorale de ses sympathisants.
On y reviendra dans les prochains jours. En effet, Arim, pour terminer, un mot de ce phénomène qui prend de l'ampleur au Brésil, les vols de nourriture par nécessité se multiplient.
Oui, c'est un reportage lié dans Carta Capital. La dégradation de la situation sociale et économique du pays conduit de plus en plus de Brésiliens à voler de la nourriture tout simplement pour survivre ou nourrir leurs enfants. Selon le code pénal, ces personnes se trouvent alors en état de nécessité. Et selon Carta Capital, qui cite une récente étude sur la pauvreté dans le pays, plus d'un Brésilien sur trois n'a pas suffisamment d'argent pour nourrir sa famille, une tendance qui ne fait que s'aggraver.
Arim Lipold pour La Presse, merci beaucoup.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Tessa Groman, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à tous.
Et à la une, les pêcheurs des Antilles et de Guyane qui ont été entendus.
Ils avaient bloqué le chenal d'accès au port de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe vendredi dernier. Au terme de 6 heures de négociations, les marins pêcheurs ont obtenu une baisse de 20 centimes le litre sur le prix des carburants. La mesure s'applique à partir du 13 juin en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Réaction mesurée du nouveau président du comité des pêches de Martinique, Jean-Michel Coquerébilé.
On ne va pas parler de victoire, parce que vu ce qui se passe actuellement avec la guerre en Ukraine, on voit la flambée des prix. Hein. Donc pour la profession, le nerf de la guerre, c'est l'essence. Et je peux vous dire qu'une fois que l'essence augmente, c'est très problématique pour la profession. Mais je peux vous dire sincèrement, pour la profession, le 13 juin, ça va être pas mal.
Au chapitre de la santé, après le Covid, voici la grippe. Le nombre de cas de grippe grimpe en flèche en Guadeloupe, 206% de plus en l'espace de 7 jours. Lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est tout l'objectif de Glan Market, une entreprise guadeloupéenne qui propose d'aller glaner chez les agriculteurs les fruits et légumes qui ne peuvent être vendus. Hier, Alexandre Houda de Guadeloupe, la première, a mis ses gants, ses bottes et son chapeau pour accompagner la cueillette.
Ils étaient plus de 120 hier à avoir fait le déplacement au Lamantin pour jouer les apprentis agriculteurs. C'était le cas de Davy, élève du lycée agricole de Bemao, qui se sent déjà concerné par le gaspillage alimentaire à tout juste 16 ans.
C'est intéressant de planter, par exemple chez moi je fais un jardin. L'anti-gaspillage, je trouve que c'est un très bon concept, sachant qu'il y a beaucoup de nourriture qui se gaspille. On a envie de mettre la main à la pâte.
Et mettre la main à la pâte, c'était précisément l'objectif de cette matinée. Les grands comme les petits réalisent leur propre glanage de fruits et légumes, qui étaient initialement destinés à la poubelle, puisqu'ils ne remplissent pas les critères esthétiques des revendeurs. Comme nous l'explique Richard Bonfils, exploitant agricole du Lamantin.
On a des fruits qui sont plus petits, parce qu'il y a un manque d'eau qui est énorme. Et ces fruits-là, ça restera invendu. Donc le mode anti-gaspillage, c'est une forte valeur ajoutée pour nous. Quoi.
Pour Richard, ce sont des revenus supplémentaires. Et pour les participants, ce sont des produits moins jolis qu'en magasin, certes, mais 2 à 3 fois moins chers. Une autre édition est d'ores et déjà programmée le week-end prochain.
C'est un véritable exploit pour le handball martiniquais. Samedi, les joueuses du club de l'Arsenal ont raflé le titre de championne de France de National 1 en région parisienne. De retour dimanche en Martinique avec leur trophée, elles ont été accueillies par des centaines de supporters à l'aéroport.
Ça nous fait plaisir. Mais franchement, on est heureux. En plus, c'est une première dans le handball martiniquais. Donc, on est super heureux.
Voilà une ambiance captée par Xavier Chevalier de Martinique, la première. Merci. Et c'est fini.
Et c'est fini, effectivement. C'est bien de le dire. Merci beaucoup, Tessa Groman, à vous et aux équipes de La Première donc, pour ce journal qui termine notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques, réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. Très bonne journée à tous et je vous dis à demain pour une nouvelle édition.